Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, enfin, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, très heureuse de vous retrouver pour la saison 2 du débrief 100% hack sur Tendance Ouest. Pas de mercato chez nous, on conserve les valeurs sûres du club. Mathieu Billot de Foot Normand, bonjour.
Bonjour à tous.
Et pendant cette trêve estivale, on a quand même laissé Luc Gallet du Courrier Cauchois au repos pour cette première de la saison. Mais à sa place, en studio, un invité qui clôture un large chapitre de l'histoire du club, j'ai nommé Vincent Volpé. Bonjour, welcome.
Bonjour, welcome.
Vous êtes l'ancien président du HAC, vous étiez actionnaire majoritaire jusqu'au 2 juillet dernier où vous avez annoncé céder vos parts à Blue Crow, groupe venu d'ailleurs comme vous des États-Unis, on va en parler. On va revenir sur cette vente tant attendue du HAC que vous espériez depuis plusieurs années. C'est aussi l'occasion évidemment de retracer les 10 ans de l'ère Volpé avant que la Ligue 1 reprenne ses droits et que la première journée se fasse en déplacement à Monaco. C'est donc parti pour le débrief 100% hack, saison 2, épisode 1. Et avant d'évoquer donc ce changement de main au hack, parole à des supporters venus admirer le tout premier entraînement ouvert au public cette saison. Ma question, que retiendrez-vous de l'ère Vincent Volpé, donc débuté il y a 10 ans, c'était le 27 juillet 2015. Vous avez écouté quelques-unes de leurs réponses.
Il faut lui dire un grand merci parce que le club était quand même dans une situation difficile. Sans faire trop de bruit, le club a su s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut pas oublier la section féminine. Alors c'est vrai que le rachat fait peut-être un peu peur parce qu'il y a des exemples qui ne sont pas très positifs. Mais bon, je pense que financièrement, malheureusement, il n'y avait pas le choix.
Depuis que Bonnemère il est là, il n'y a que du bon. Il a le bon filon, il a le flair. C'est un très bon choix.
Il a su assurer une Ligue 1, il a su assurer la DNCG une fois, deux fois. La troisième fois, c'était un peu plus compliqué. Je pense qu'il avait plus envie d'investir dans le club. Il a vendu ses parts, à voir ce que ça va devenir.
Qu'il vende, de toute façon, c'était nécessaire. Il fallait du sang neuf. Maintenant, la multipropriété fait peur aussi. Hein. On sait bien ce que ça peut donner. Hein. On a un bon centre de formation. On sait que ça peut être certaines pertes de jeunes qui peuvent arriver. Et puis après, voilà, on a toujours peur de ce que ça peut donner sur le long terme. Maintenant, à voir aussi les filles derrière ce que ça va donner.
Et on va évoquer évidemment tous ces sujets avec vous, Vincent Volpé. Donc vous avez officialisé il y a un peu plus d'un mois la vente du HAC au groupe américain Blue Crow, je le disais, représenté par Jeff Luneau, ou plutôt de la société FCI, actionnaire majoritaire du club doyen, à hauteur d'un peu plus de 96%. Vous l'avez dit ce jour-là, le 2 juillet dernier, il coche toutes les cases.
Oui. Bon, d'abord, je crois que le sujet qu'il faut aborder, c'est pour être clair sur la vente. Parce que j'ai entendu un peu de bruit et tout ça de notre communauté. Ils nous ont spoilé, je ne sais pas quoi et tout ça. Mais
ouais, vous faites référence aux petits actionnaires.
Bah oui, aux petits actionnaires.
Qui sont épanchés, notamment chez nos confrères de Paris-Normandie.
Oui.
Pour manifester leur désapprobation par rapport à la vente. Qu'est-ce que vous avez répondre et à leur dire? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas exprimé sur ce sujet-là.
Non, je ne me suis pas exprimé parce que ce n'était pas ma place. Mais je crois qu'on était assez clair, mais peut-être pas assez clair, qu'en fait, le club n'était pas vendu. Il n'y a aucun part du club était vendu. Moi, j'avais, avec Christine, ma femme, on a établi une société qui s'appelle FCI. C'est une société luxembourgeoise qui détient 96,21% des parts. C'était le cas il y a un mois, c'est le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de vente. Ce qui se passait, c'est qu'on a vendu notre part de la société qui détient les parts. Et c'est une précision très importante parce que, en fait, tous les actionnaires, entre guillemets, on dit les petits actionnaires, mais en nombre de parts, oui, mais pas en âme.
Ils sont plus de 200.
Ils sont plus de 200 et ils sont vraiment, vraiment fidèles au club. Et il y en a beaucoup qui font des partenariats aussi avec le club. Ces gens-là, ils ne sont pas affectés du tout. On avait signé un pacte, FCI et les actionnaires, il y a 10 ans, qui leur donnait un certain nombre de droits parce qu'ils étaient actionnaires minoritaires. Et puis, ils ont toujours les mêmes droits. Le pacte, il est toujours d'actualité. Il n'y a rien de changé. Ceci étant, je peux aussi quand même m'exprimer sur le sujet à une façon très, très limitée, en leur assurant que j'avais donné une recommandation assez claire à Jeff, par question de courtoisie, de parler un petit peu avec les autres actionnaires, de s'exprimer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. c'est absolument pas à moi de le dire, c'est à lui de le dire. C'est pour ça que je suis resté silencieux avec le petit bruit qu'il y avait, parce qu'en fait, j'ai pas le droit de m'exprimer sur le sujet, c'est plus à moi. Mais je vous rassure tous et toutes les actionnaires que, en fait, il n'y a pas de changement. Tout est pareil. Tout est pareil.
C'est seulement leur interlocuteur, j'ai envie de dire, qui change, qui avant était vous, représentant de votre famille,
voilà,
et qui c'est... aujourd'hui, maintenant, c'est Monsieur Luneau, représentant
exactement,
de Blue Crew.
Exactement, Mathieu, c'est juste ça. En fait, celui qui contrôle l'actionnaire est changé. Au lieu d'être moi, c'est Jeff. Mais sinon, le reste, il reste pareil.
Et c'est vrai que, sans bien sûr donner de, on va dire, de conseils ou de consignes à Monsieur Luneau, effectivement, une rencontre avec ses actionnaires, ses plus de 200 actionnaires pour présenter... pour se présenter, comme il l'a fait d'ailleurs vis-à-vis de la presse ou vis-à-vis des salariés du club.
Et j'imagine des supporters.
Des supporters, j'imagine, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est une étape importante pour se présenter.
Oui, moi, je ne me fais pas de soucis. Je demande juste un petit peu de patience parce qu'il faut quand même qu'ils mettent les pieds sous le bureau, comme on dit en anglais. Il faut lui donner un petit peu de chance d'arriver. Et puis, il n'habite pas ici non plus. Il n'a pas la capacité de voir tout le monde tous les jours. Mais je suis assez confiante qu'il va parler avec les actionnaires, c'est sûr. C'est plus que normal.
Et donc, juste pour terminer sur ce sujet-là, parce que du coup, suite à cette parole des petits actionnaires, des supporters ont craint un moment que la vente soit remise en question. Bon, la décision de la DNCG a prouvé que non, mais vous pouvez le confirmer, ça ne remet absolument pas en question.
Ben non, ça n'a aucun rapport avec. L'actionnaire n'est pas changé. Donc, c'est pas nécessaire de faire des votes, l'Assemblée Générale, rien du tout. Et vous pouvez vous assurer qu'avant de me lancer dans l'aventure, je me suis renseigné légalement pour être sûr de notre façon de poursuivre l'affaire.
On le sait, on le disait, ça faisait longtemps que vous cherchiez quelqu'un qui puisse prendre la suite. À quand remontent les tout premiers contacts avec Blue Crew?
Blue Crew, c'était en janvier cette année, mais cette concept que j'ai cherché depuis très longtemps, c'est pas exactement vrai. En fait, moi, j'ai pris le club pour des raisons socio-économiques, autant qu'on a fixé des objectifs sportifs, qui était notamment de monter en Ligue 1 au plus vite possible. Alors, 7 ans, c'est pas très vite. Et puis, et à une façon durable. Et ça, on travaille là-dessus. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, on va attaquer la troisième année. Et c'est pas tout à fait durable, le projet, pour l'instant. J'espère vraiment que Jeff et son équipe qu'ils fassent. Donc, pour revenir sur le sujet, le téléphone, il sonne, je réponds. Ça fait des années qu'il sonne. Et puis... moi, j'avais pas trop envie de vendre, mais je me suis dit, s'il y a la bonne personne arrive avec un bon projet, surtout sportif et socio-économique, je prends. Et puis, le meilleur exemple, en 21, il était affiché dans la presse que le club était vendu, j'étais plus président, etc., etc., parce qu'ils avaient de mauvaises infos. Et leur enseignement n'était pas correct. Parce que j'avais des appels à l'époque. J'étais contacté par un groupe, et puis, j'ai même pas fait attention parce qu'il paraissait pas très sérieux, vous savez, mais il y a toutes sortes de football là. Hein. Je fais même pas de photos. Vous vous souvenez bien, il y a 10 ans, de ce qui se passait ici. Donc, j'ai pas fait trop attention. Le type, il m'a contacté, il m'a appelé, tout ça, mais je vais prendre, ok, je vais réfléchir, mais honnêtement, je réfléchissais pas. Et puis, à ce moment-là, Momo El Karaz, le fameux Momo, notre directeur de recrutement aujourd'hui, il m'appelle et dit, Vincent, tu ignores ce groupe-là, mais je suis avec eux. Je dis, ah, ben, ça, c'est autre chose maintenant, parce que je sais qu'il est un garçon sérieux et que, il crée les liens avec les familles, surtout des jeunes et tout ça, une chose qu'on peut que d'admirer. Donc, vraiment par courtoisie à Mohamed, j'ai dit, OK, bon, ben, je vais rencontrer les gens. Et puis, je réalise qu'en fait, il vient en équipe. Il vient, Momo, avec Mathieu Bodmer, Jean-Michel Roussier et Julien Momo. Voilà le noyau. Et devant moi, je réalise qu'en fait, j'ai une équipe qui a une vision unique sur la gestion du club et pas seulement sur les pros, mais aussi sur le centre de formation. Une chose qui a manqué énormément parce qu'il y avait vraiment deux groupes différents. Le centre de formation, il voulait gagner les matchs, mais le club, il voulait qu'on forme les joueurs de jouer à notre philosophie, à notre style de jeu. Et avec Mathieu, c'était clair qu'il allait tout mettre dans le même fil. Ils parlaient avec une voix unique, ils avaient les mêmes objectifs et ils ont montré un certain engagement vis-à-vis des dates. Une chose qui manquait énormément ici et que j'avais déjà cherché 2-3 années avant, auparavant. Et puis, j'ai plaidé avec les directions à l'époque, embaucher quand même un technicien qui connaisse le data et tout ça. Bah, ils n'étaient pas trop pour. Il y a un moment donné, on ne peut pas faire pour eux. Ce groupe, il arrive. Et puis, il y a un moment donné, je leur ai dit, je me rappelle comme si c'était hier, je les invite à manger à Paris. Et j'ai dit, écoutez les gars, je ne sais pas comment il va faire les fonds monétaires derrière vous, mais je m'en fiche. Je vous prends, si vous êtes prêts de venir, vous venez. Et puis, l'investisseur, il est parti. Ben, il ne m'intéressait pas trop déjà. Et puis, il a disparu dans la nature. Mais j'ai gardé le type, les 4 personnes. Et tout de suite, il rajoute Luke Elsner et le reste de son équipe. Ben, Luke, il a absolument fait le taf. Et ce qu'il a fait depuis Didier, avec moins de moyens, je note, avec moins de moyens, c'est que de, remarquable. C'est remarquable. Donc, tout ça pour dire que ça fait longtemps qu'il y avait des appels. J'ai cherché pas vraiment. Et puis, j'étais très, très proche de signer. En fait, j'avais presque acté un accord en fin 23, début 24. Et puis, c'est une conversation qui avait commencé avec un groupe, même quand on était toujours en Ligue 2. On n'avait pas encore fait la montée. Et ça, à la fin, ça passait à la trappe. C'est dommage à une côté, mais à l'autre côté, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que maintenant, il y a un groupe qui a un savoir-faire de football. Ils ont plusieurs clubs. Et puis, j'ai entendu, si je peux me permettre, le commentaire des supporters qui disaient « Oui, ça fait toujours un peu peur, le multipropriété, etc. » Mais écoutez, si je suis vraiment honnête, il aurait dû avoir plus de peur avec moi qu'avec eux. À mon arrivée, je ne connaissais pas de football, je ne connaissais pas la Ligue, je connaissais personne dans le foot, je connaissais pas les instances à Paris, je savais que j'aurais une société et j'avais
et
ma responsabilité et j'adore le Havre, c'est ma ville, donc voilà.
Ce qui est une qualité quand même très importante, je pense, pour s'occuper d'un club de foot, d'aimer la ville dans laquelle le club est quand même.
Oui, parce que toutes les semaines, le stress, on met son âme dans le club. Oui, bien sûr, on met de l'argent aussi. Mais si on ne peut pas mettre son âme, ça manque quelque chose. Et c'est pour ça que section féminine, c'était tout à fait naturel que ça suive et que ça joue dans le stade avec les garçons. Je trouve ça tout à fait normal. Mais je crois que je suis le seul en Ligue 1 où les filles et les garçons jouent dans le même stade.
On en reparlera un petit peu.
D'accord, je me pose des questions toujours pourquoi.
Et donc, pour revenir à Blue Crow, du coup, qui est du coup le nouvel actionnaire majoritaire, qu'est-ce qui a fait qu'avec eux, ça a été au bout du processus de vente, du coup ?
Pourquoi ils cochent toutes les cases, finalement ? C'est un peu ça, le...
Oui, en fait, moi, j'ai trouvé qu'ils m'ont montré plusieurs exemples de comment ils ont pu développer commercialement, hors sportif, les clubs. Et c'est une chose absolument obligée de faire.
On n'a pas rappelé qu'ils sont propriétaires aussi de Cancun et les Ganes.
Voilà. Et puis, le deuxième parti, je ne pouvais pas vérifier, mais ils m'ont beaucoup parlé de leur approche sportive et qu'ils viennent pour, entre guillemets, conseiller, d'apporter les idées, même peut-être les joueurs, mais qui respectent absolument l'hiérarchie en place. Et pour moi, c'était essentiel. Il n'y a pas question de vendre les parts de la société qui détiennent les parts de ce club, entre guillemets, le contrôle de club, sans garder Jean-Michel, Mathieu, Momo, Julien et puis Didier. C'est pas question. Et eux, ils ont dit oui tout de suite. Donc voilà, tout est cloché.
C'était le beau moment aussi où il fallait vendre. C'est compliqué aujourd'hui.
Le manque de droits de télé et tout ça, on rame tous. Il y en a 5 ou 6 clubs qui touchent les droits internationaux, qui sont plus ou moins OK. Il y a aussi les très, très grosses fortunes. Ça va aussi. Mais moi, je ne m'appelle pas l'état d'un pays au Moyen-Orient, quoi. Donc, nous, nos ressources sont beaucoup plus limitées que des autres. Et donc, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis, à ce moment-là, je dis à Christine, bon, maintenant, moi, je n'investis plus. Donc, on continue de faire comme on a fait, qui n'est pas souhaitable, honnêtement, jusqu'à ma dernière journée. Et puis, il ne faut pas compter toujours sur le Panenka au 97e minute contre Strasbourg pour rester en Ligue 1, quoi. Donc, on essaie quand même de respirer un petit peu plus. Et donc, moi, je crois que c'est un groupe, c'est pas du Qatar non plus, pour être très direct, mais quand même, ils ont un savoir-faire de gestion de club. Et puis, je crois qu'ils peuvent prendre ce qu'on avait fait et améliorer et bâtir là-dessus. Et c'est l'idée, hein. Même quand j'ai pris les rênes après Jean-Pierre Louvel, j'étais très clair. J'ai dit, je vais essayer de bâtir sur ce que tu as fait, Et plutôt, c'est le stade qu'ils ont fait, qui n'est pas négligeable. Hein. On ne claque pas les doigts comme ça, et avoir un beau stade comme ça en deux secondes. Hein. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, moi, je vais respecter ça. Et j'avais des autres idées. Et maintenant, après 10 ans, je crois qu'il est temps que quelqu'un reprenne ce que j'avais fait et qu'il améliore. Aucun, même s'il faut qu'il change des choses, qu'il les change. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, un peu de patience. Laisse qu'ils développent leur projet. On devrait soutenir, pas critiquer. Il y a trop d'artistes ici. Pardon, il n'y a pas assez d'artistes. Il y a trop de critiques, en général, dans la vie, dans le monde. Et donc ici, honnêtement, on leur donne leur chance. On soutient. Et puis, et on va voir. Après, hey, c'est à eux d'agir quand même. Moi, je peux contrôler jusqu'à un certain point. Je crois ce qu'ils me disent. Mais il faut qu'ils prouvent maintenant de quoi ils sont capables. Donc, on est tous dans l'attente, mais à une façon positive.
Ouais, faut être référence aux critiques parce que c'est vrai que là, dans l'immédiat, encore une fois, hein, c'était il y a quelques semaines, hein, c'est juste quelques semaines, le supporter qui regarde son équipe, son club favori, il perçoit pas vraiment beaucoup de changements. Pour l'instant, le club ne semble pas disposer de moyens supplémentaires pour recruter. On est en pleine période de mercato. Et forcément, certains supporters se disent, bah, qu'est-ce que ça va amener, en fait, ce changement de propriétaire pour le club? C'est un peu ça que...
On verra, on verra. Mais avec tout ça, il ne faut pas oublier une chose. C'est que l'équipe qui a fait avec les moyens le dernier budget de Ligue 1, juste devant Angers, avec l'avant-dernier budget de Ligue 1, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas question de signer 2 millions pour un joueur et après il s'enflamme et puis après il est blessé. Donc il faut respecter l'analytique qu'ils utilisent et puis la capacité des hommes, Mathieu et son équipe et Jean-Michel derrière. Donc ils ont fait avec très peu. On leur donne un petit peu plus. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent moins bien que l'année d'avant. Mais imaginez pas les grosses affiches qui vont arriver à plusieurs millions de transferts. Ça n'arrivera pas ici. Mais c'est pas nécessaire. On prend les bons joueurs qui sont complémentaires, qui jouent le style qu'ils souhaitent jouer, la direction. Et on peut créer une très bonne équipe. Parfois, on voit l'opposé. On voit une agglomération des joueurs excellents, entre guillemets très très chers, qui fonctionnent bien, mais pas à leur potentiel commune.
Pas au point de gagner la Ligue des Champions il y a quelques années, par exemple pour le PSG.
Par exemple,
qui animait,
par exemple. Voilà.
Si on revient sur le HAC, quand même, l'arrivée de Blucro, parce que le club du HAC, hein, perdait de l'argent, voire beaucoup d'argent, hein, ces dernières années. Donc il fallait quand même présenter, il fallait que vous présentiez les garanties nécessaires pour que franchir notamment l'obstacle de la DNCG, ce qui a toujours été le cas. L'arrivée de Blucro, dans ce sens-là, peut permettre quand même au club, vous y faisiez référence, je crois, lors de la conférence de presse de présentation avec Jeff Letneau, c'est au niveau de la dette, du coup, de repartir un peu d'une page blanche.
Tout à fait. On a beaucoup assaini le bilan. C'est sûr.
Alors ça, c'est pas quelque chose de visible.
Non, c'est
pour
pas visible.
La personne extérieure, mais c'est quelque chose de très important pour les...
Essentiel.
Essentiel. D'accord. Et essentiel. Ça a été permis par l'arrivée de Blucro.
D'une partie, de l'autre partie, j'ai exonéré beaucoup de dettes.
Voilà.
Au titre personnel.
Voilà. Donc vous êtes assis en fait sur, je dis ça comme ça en termes un peu familiers, vous êtes assis sur des sommes, entre guillemets, que le club vous devait, si j'ai envie de dire, ça comme ça.
Oui, on dit, mais on ne dit pas plus.
Voilà, on va s'arrêter là. On va juste sur la partie financière, maintenant sur la partie un peu plus affective.
Oui.
Donc c'est vrai que ça fait un mois que vous n'êtes plus le propriétaire du HAC garçon, on reviendra sur les féminines un petit peu plus tard. C'est quoi votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes serein d'avoir passé la main à un groupe que vous estimez remplir toutes les cases, comme on dit? Est-ce que vous êtes un petit peu nostalgique? Est-ce que vous êtes déjà un peu en manque? Vous disiez le stress des fois des matchs. Est-ce que déjà là, le championnat de Ligue 1 va reprendre bientôt? Est-ce que déjà ça vous manque un petit peu, cette adrénaline? C'est quoi l'état d'esprit qui vous anime?
Je suis pas en manque, quoi moi.
Pas
du
encore,
tout.
Pas encore.
Pas encore.
On fera une émission dans 6 mois. On verra si.
Non, il y a 3 ans, quand j'avais demandé Jean-Michel et l'équipe de prendre contrôle de club, j'ai vraiment cédé la gestion quotidienne de club. Et puis, ça m'a déjà enlevé beaucoup de temps. Et puis, j'ai créé une autre société qui concerne l'environnement. C'est pas l'émission d'aujourd'hui, mais je me suis mis à 100% là-dedans. Et donc, effectivement, il n'y a pas de manque d'activité au niveau de Maison Volpe. Même Christine, parfois, elle fait la remarque. Donc, je ne suis pas en manque d'activité. je crois qu'il y a une différence entre l'adrénaline et le stress. Le stress, c'est avant le match de Strasbourg. L'adrénaline, c'est après. Et donc, l'adrénaline sera toujours là, mais avec un peu moins de stress. Mais je vais quand même me stresser si le club ne réussit pas, qui ne sera pas le cas. Donc, nostalgie, très, très peu.
On vous a senti un peu ému quand même le 2 juillet. Un petit peu d'émotion quand même au moment de passer la main devant la presse l'autre jour.
Oui, mais c'est plutôt de joie qu'autre chose. Je suis très, très content de notre bilan. Tout n'était pas parfait. On a mis 7 ans quand même pour monter en Ligue 1. Qui était... On a presque fait la première année, vous vous souvenez bien.
Hey, et on voulait justement, 5-0. On voulait vous en parler justement. Ouais, avec ce petit but qui manquait.
Des choses inoubliables. Mais on a mis 7 ans. Donc c'est pas remarquable du tout. Mais on l'a fait. Et je maintiens, si on prend des bonnes décisions jour après jour, les résultats, ils suivent. Tôt ou tard, ils suivent. Section féminine, grande réussite. Pour moi, au titre personnel. Et puis, quand j'ai réalisé la mission sociale que le Café Vert a rempli dans le temps pour les garçons, je me suis dit, il faut absolument faire la même chose avec les filles. Alors, on va en parler tout à l'heure, peut-être. Mais l'autre chose, c'est l'idée de ma femme. Un jour, on était en train de manger. Et puis, c'était pendant une période de COVID. Et j'ai dit, bon, tiens, cet après-midi, je vais voir le maire. J'ai un sujet à traiter avec lui. Il dit, bon, tiens, entre deux, pourquoi tu ne lui proposes pas le stade pour vacciner? Je dis, excellente idée. Et puis, c'est Christine qui a eu l'idée. Bon, ça a pris deux nanosecondes avec lui. Il a saisi l'idée, et c'est super. Et puis, il a vacciné plus que 200 000 à vrai. Hein,
dans moi. J'ai pris ma première dose au stade Océane.
Ah, vous étiez? Bon, c'est bien. Donc ça fait partie de la mission qui ne sont pas très visibles, mais qui donne beaucoup de satisfaction au titre personnel.
La mission sociale que doit avoir le club vis-à-vis de sa ville, en fait.
Il ne faut pas oublier, c'est un projet socio-économique autant que sportif. Tout le monde est concentré sur l'équipe première masculine, etc. D'accord. Mais entre deux, vous réalisez maintenant qu'il y en a 2-3 filles qui ont commencé il y a 5-6 ans avec nous, qui maintenant jouent avec l'équipe première, à Vraise. C'est extraordinaire. Alors, ça coûte très cher, la section féminine, mais comment vous mesurez un investissement? Le ROI, comme on dit, le retour sur l'investissement, il est comment? Quand tu améliores une seule vie, tu changes la trajectoire d'une petite fille à Vraise. Bah, ça vaut quoi? On peut pas compter. Ça, on a fait. Donc, oui, on avait des échecs aussi, c'est sûr. Il y avait des moments très bas. Bon, je me rappelle de tout. Les bons et les moins bons. Le séjour à Ajaccio. Par exemple, le décès de Samba Diop, qui...
On va continuer à parler des souvenirs, peut-être, sauf si Mathieu avait une nouvelle
question. Non, je voulais juste ça. Est-ce que vous comptez assister à un match cette saison au Stade Océane, le premier, ou un match dans la saison?
Non,
ou...
on va certainement aller pour Lens. Après, bon,
pour le premier à domicile, du coup, le 24, c'est ça?
Il faut quand même reconnaître, même si c'est un peu sensible de le dire, qu'effectivement, il y a un nouveau shérif, comme on dit. Il faut le respecter. Et donc, je ne vais pas être sous les pattes, je ne vais pas être trop visible. Déjà, nous, on n'a vraiment jamais cherché ça avec Christine. On ne va pas commencer maintenant. Donc, on sera premier match, c'est sûr, et de temps en temps, je crois que mon gendre, mon petit-fils et tout ça, eux, ils ne vont pas louper un match. Moi, un peu plus, je crois.
Ça va être un projet ambitieux, c'est une certitude, parce que je suis ambitieux, parce que les équipes autour de moi sont ambitieuses. Parce qu'on veut remettre le Havre sur la carte du football français. Maintenant, il va falloir construire. Il y a beaucoup de travail, mais beaucoup d'envie, d'ambition et de plaisir dans les semaines qui arrivent. C'est qu'un travail d'équipe. Nous, on travaille comme une équipe à 11. On est un peu moins nombreux, mais voilà, tout se fait en concertation. C'est-à-dire que je décide de beaucoup de choses, mais j'ai des gens autour de moi qui sont très compétents et qui m'aident au quotidien.
Vous êtes toujours à l'écoute du débrief 100% hack et vous venez d'entendre Mathieu Bonnemer le 20 juin 2022. Le directeur sportif alors arrive au Havre avec toute son équipe. On en parlait tout à l'heure, l'entraîneur Lucas Elsner, l'analyste data Julien Momont, le spécialiste des recrutements Mohamed Elkaraz et un tout nouveau président Jean-Michel Roussier. Et ce jour-là, Vincent Volpé, vous déclarez « Je me retire de l'opérationnel car j'ai quelqu'un ici qui va mieux faire que moi ». C'est la décision la plus importante dans ces 10 ans ou pas, ce changement d'équipe?
Oui, mais la décision était prise avant un peu au niveau de data. J'étais persuadé qu'on peut mettre le meilleur du monde, mais s'ils n'amènent pas le data et l'analyse avec eux, il va nous manquer quelque chose. Et c'est une décision que j'avais déjà prise à peu près 2 ans avant ça.
Avant le Covid, vous disiez à l'époque.
Oui,
ça fait
et
un moment
j'ai cherché un peu, je n'ai pas trouvé. Et quand j'ai trouvé l'équipe, je n'aurais jamais embauché une de ces personnes tout seul. Mais quand ils se sont présentés à 4, avec la même vision et avec cette pièce maîtresse qui s'appelle Bodmer, bah, c'était impossible de faire autrement. Et puis, comme tous les bons gérants, il faut toujours mettre la bien-être de la société devant tout. Et moi, j'ai considéré qu'eux quatre, ils peuvent beaucoup mieux faire que moi, le directeur général existant et le coach existant. Et donc, j'ai viré les trois, moi compris. Et puis, voilà, ça fait partie des très, très bonnes décisions. Eh ben, on entend Mathieu en 22 comme si c'était hier. Il a fait le job. Hein. Eux, ils ont fait le job. Et il a raison aussi de dire, ils travaillent en équipe et tout le monde est concerné du projet, les 11. Donc, c'est important aussi. C'est un mec qui sait animer l'équipe et puis il a un patron derrière lui qui a déjà fait ça deux fois. Et puis, troisième fois, là, ici, il a fait les yeux fermés.
C'est une belle histoire quand même. On se dit, finalement, l'arrivée 2022, la montée en 2023. Bon, vous auriez voulu le faire que finalement, on se demande si ce n'est pas une bonne fée qui s'est penchée sur le berceau du HAC à ce moment-là, non ?
Ouais, ben, j'ai pas compté. Non, personne n'a compté sur la montée la première année. À mon avis, ils construisaient pour l'année d'après. Et puis, au fur et à mesure, on ne perdait pas. Mais on ne gagnait pas tous les matchs non plus. Il y avait un stress qui montait au fur et à mesure parce que autant qu'on ne perdait pas les matchs, on ne creusait pas l'écart entre les autres.
Ah ben,
et puis, la dernière journée, on était obligé de jouer.
Ça s'est fait au dernier moment aussi, là, oui. Cette fois-ci.
Vous y faisiez un petit peu référence, donc il y a eu quand même la période avant, j'ai envie de dire, Jean-Michel Roussier et Mathieu Bonnaire. Vous faisiez référence à ce fameux match contre Bourg où il a manqué, la dernière journée de la saison, il n'a manqué qu'un but au HAC à l'issue de votre première saison en tant que propriétaire, président de propriétaire pour monter. Il y a eu aussi ce barrage d'accession, on va dire, de triste mémoire à Ajaccio, hein, où il s'est passé...
C'était deux ans plus tard.
Exactement, en 2018. Qu'est-ce que vous gardez de cette période, on va dire ? À ce moment-là, quand même, c'est sur ces années-là, le HAC prétend quand même aussi déjà à monter en Ligue 1, d'une manière peut-être différente, avec d'autres hommes en place. Mais à cette période-là, on a l'impression qu'il manque pas grand-chose, mais il a manqué quand même un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous en gardez de ces premières années, de vos premières années comme propriétaire et comme président ?
Ce qui manquait, après l'analyse, clairement, c'était l'efficacité de recrutement. On avait toujours nos jeunes. Ils ont toujours contribué. La liste est longue. Hein? Et puis, mais le recrutement, j'ai mesuré. Et puis, bon, il y a les anciens, quand ils m'entendent parler, ils disent que c'est complètement stupide. OK, mais bon, moi, j'ai fait. J'ai mesuré tout simplement l'efficacité de recrutement. Et tous les ans, j'ai demandé le directeur sportif, regardez tout ce que vous avez recruté. Dites-moi, verte, jaune ou rouge ? Vert, c'est une bonne pioche. Rouge, certainement pas. Et j'en aurais pas encore sûr. Et puis, c'est 0,50 au 100%. On fait le calcul. On termine, en moyenne, sur les premières 7 années, à 57%. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, on s'est trompé sur le recrutement. Moi, j'ai fait le même calcul. Et c'est un calcul difficile. Si vous regardez 0,50 au 100, on est au-dessus de 75% avec l'équipe Roussier Bodmer à un moment, Elkaraz. Et donc, effectivement, le recrutement et la data pour analyser les joueurs, ce qu'ils ont fait a réussi. Mais c'était ça, la pièce qui manquait. C'était le recrutement. Et on ne se disposait pas des moyens et des outils comme on a aujourd'hui pour faire la différence. L'argent était là. On avait équilibré les budgets. Jusqu'à il y a 3 ans, il n'y avait pas de dette dans le club. Toutes les dettes qui existaient avant étaient effacées. Et puis, tout ce qu'on a touché, parce qu'on touchait 10 millions en moyenne en Ligue 2, hors de Covid, de transfert net. Cet argent-là, il n'était jamais arrivé dans mes poches. C'était toujours investi dans le club, pour le bien-être du club. Le son technique de Socans, l'hôtel, le restaurant, les bureaux, la section féminine, les embauches qu'on a fait pour recruter les jeunes, à la Cave Verte, à l'association. Donc tout ça, c'était investi, pas parfaitement bien, mais bien. Et puis, la chose qui manquait, c'était la data. Et puis, l'efficacité de recrutement de l'extérieur.
Avant cette période, justement, de l'arrivée de Mathieu Bodmer et son équipe, il y a quand même eu aussi des critiques envers vous, etc. Comment vous aviez vécu ces années-là où justement, le HAC était un petit peu dans le ventre mou de la Ligue 2,
il y avait une saison
2,
où
si
le maintien, où l'équipe avec Paul Le Guen comme coach...
Oui, mais on n'était jamais vraiment, vraiment en risque. Donc, première chose que je dirais à ceux qui ont critiqué, vous les critiquez, regardez les autres clubs. C'est en Ligue 1, Ligue 2, National, disparu. ça arrive très, très vite. Tous les ans, c'est un nouveau projet. Et puis, pour les critiques, moi, j'avais passé 15 ans, de mes 34 ans là, chez Dresser, 15 ans comme PDG du groupe mondial, dont les dernières 10 années, on était coté sur la bourse. Vous voulez entendre des critiques? Tous les trimestres, on l'a. Et puis, l'ancien président, il m'a dit, il prenait sa retraite, il dit, je te donne un seul conseil. Ne lis pas la presse, ni les journaux, n'écoute même pas. Un jour, t'es le roi de pétrole, et le lendemain, t'es le roi des cons. Et puis, et ça bascule comme ça. On perd 3 matchs, comme si c'était moi qui me mettais le ballon dans le filet des autres. Et donc, ça me faisait vraiment ni chaud ni froid. La chose qui m'énervait de temps en temps, c'est quand il y avait des choses qui étaient pas vraies, qui apparaient dans la presse, sans avoir les précisions et la responsabilité de journaliste, de journalisme. Et puis, je me suis exprimé. Ça, c'est derrière nous. Après, cette fameuse période de 2021, j'ai jamais vu vraiment... Bon, tout le monde peut critiquer, c'est normal qu'ils critiquent. Si ça va pas bien, premier qui prend, c'est le président. C'est tout à fait logique. Ça me gêne pas du tout. La chose qui m'a gêné un peu, c'est quand ils avaient marqué les choses qui étaient complètement fausses et qui n'a pas aidé le club. T'as un article dans la presse qui dit le club est vendu, le président y est plus. Et en même temps, Paul Le Guen, il essaie de recruter un joueur, il avait failli le faire signer. C'est un joueur bien connu en Ligue 1. Et le type, il dit non, il y a trop de bazar, j'y vais pas. Donc ça nous a coûté un joueur. Donc, pour ça. Mais pour le reste, honnêtement, les gens, ils critiquent, ça fait partie du job. Faut pas s'énerver.
Donc, vous n'avez jamais regretté d'investir dans le football, d'investir dans le hack, ça... Vous n'êtes jamais dit un jour, qu'est-ce que je fais là, en fait
J'ai une question pour toi, Mathieu, je me permets de te tutoyer. Pendant 10 ans, tu as pris une décision, tu n'as jamais posé les questions si c'était bon ou pas.
Si, tous les jours d'ailleurs.
On est des êtres humains. Donc c'est logique, parfois on se pose des questions. Mais sur la mission, non.
Sur la mission sociale.
Sociale et socio-économique. Une chose que les gens ne parlent pas, mais il y avait une étude qui était effectuée ça fait bien 5 ans maintenant par Ernst & Young. Ils ont étudié tous les clubs. Ils ont trouvé que nous, en Ligue 2, faisaient des retombées financières directes. Je parle pas d'effet d'hôtellerie, les restaurateurs et tout ça. L'effet, la retombée directe de 22 millions d'euros par an pour la ville. Entre les salaires et puis les charges qui sont payées. Donc effectivement, c'est un projet socio-économique, pas seulement social.
On a un petit peu parlé des mauvais souvenirs. S'il y a un souvenir, un bon souvenir que vous garderez ou une image, on va dire, alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais ce serait quoi?
Il y a plusieurs. Bon, la montée, peut-être, parce qu'il y avait des mois et des mois de stress, parce qu'on creusait pas, comme je vous ai dit, on creusait pas l'écart. Et on perdait pas les matchs. Donc, on pouvait pas vraiment se rapprocher. Donc, ça, c'était énorme. Le match contre Strasbourg, c'était inattendu. Et c'était énorme. Sont peut-être les meilleurs moments de ces deux moments-là. J'ai déjà cité le pire. Que je peux même pas parler, je me permets de pas dire plus sur Samba. Et puis, mais même ça, j'ai appris quelque chose qui était très, très positif dans une situation horrible. Je suis allé voir la famille, j'ai passé l'après-midi avec Jean-Michel Kosiewski, qui était président à l'époque de l'association, une très, très bonne personne, entre deux. Et puis, on a passé l'après-midi avec Aramé, sa maman, et puis la famille. Et qu'est-ce que je trouve à la maison? Je crois que tout le cavé vert était là. Les éducateurs, les adjoints, les assistants, le service médical, tout le monde était là. Et j'ai réalisé l'impact que nous avons, l'association a, avec le public ici au Havre, c'était énorme. Ils étaient chez eux. C'était clair que ce n'est pas la première fois qu'ils s'y sont déplacés. J'ai réalisé le rôle qu'ils en jouent. Oui, on produit les bons joueurs, mais tous les autres qui en forment, qui en créent les citoyens productifs, pour l'avenir. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et c'est pour ça que je me suis dit, on fait les garçons, il faut faire pour les filles.
Très belle transition.
J'ai eu la chance de vivre la montée il y a 2 ans avec le HAC. Ça a été une montée particulière parce que le championnat avait été écourté à cause du Covid, du confinement, etc. On n'avait pas pu aller au bout de l'année sportive. On a fêté ça à travers nos écrans. Aujourd'hui, on a été au bout de la saison. On a été là chercher avec les tripes. On la mérite amplement, cette montée-là. On savoure, en fait, ces moments-là, ils sont rares dans une carrière de footballeuse. On connaît la D1, on l'a vécu il y a 2 ans, on a fait des erreurs, on a appris de ces erreurs. On va faire un travail collectif pour pouvoir aller chercher le maintien, arriver dans cette division avec humilité et faire le travail nécessaire.
Dans le débrief 100% HAC, retour en mai 2022, cette fois c'était à l'hôtel de ville du Havre. La capitaine du HAC à l'époque, Cilia Couy, et ses coéquipières célèbrent leur deuxième accession dans l'élite en 2 ans. Elles avaient été invitées par Édouard Philippe et la municipalité. On sait que vous avez été toujours, et on l'a dit plusieurs fois déjà, attachée à l'aspect sociétal du HAC, l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes qui jouent au stade Océane au même titre que les hommes. Alors, tout le monde se pose la question de l'avenir de la section féminine parce qu'on ne l'a pas précisé, ou peut-être que
non,
si,
on
n'a
peut-être pas
plus
précisé que le projet de reprise de Blue Crow ne comprend pas la section féminine. Vous l'aviez expliqué lors de la présentation, lors de la conférence de presse. Et donc, techniquement, mais vous allez nous le confirmer, aujourd'hui, la section féminine, elle vous appartient toujours.
Financièrement, oui. Donc, c'est à moi d'assumer le problème financier. Mais elle fait toujours partie du club le temps que je cherche un repreneur adéquat. Et sinon, moi je suis là, je soutiens Laure Lepailleur. Et puis Jean-Michel, il le soutient toujours parce qu'elle répond toujours à Mathieu, elle fait toujours partie du groupe. Mais 2-3 mots quand même, si je peux me permettre,
ah
sur
oui,
la section féminine.
Permettez-vous.
Merci,
bien
parce
sûr,
que c'est un sujet qui est très proche à moi et Christine. La section féminine, ça s'est passé comment? J'avais invité l'université de Lehigh en 2017, section féminine et masculine. Ils sont venus jouer ici. Donc, c'est les jeunes qui ont jusqu'à 22 ans, après ils sont diplômés, ils partent dans leur vraie vie, entre guillemets. Et puis, c'était une équipe qui était peut-être dans les top 50. Donc, pas très, très hautement placée aux États-Unis, niveau d'université. Ils nous ont fait une raclée pas possible. C'est un 7-0, et puis ils auraient pu faire 14 si vous voulez. Alors, je bouille. Je dis, ça, c'est pas normal. Je vois nos filles qui s'entraînaient peut-être 2 heures par semaine. Et puis, il y a des autres qui s'entraînaient 2 heures par jour. Et donc, Jean-Michel, il était à mes côtés. J'ai dit, Jean-Michel, on va changer ça tout de suite. Et puis, c'était en mars. En avril, je vais aux États-Unis. J'avais une conseil d'administration pour notre société. Je vais à Philadelphie. Avec les contacts que j'avais, on contacte les coachs. On dit, voilà, on cherchait 9 joueuses américaines. On était en D3. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de contrats fédéraux. On recrute qui on veut. Et donc, on a recruté une américaine par poste. 9 sur 10. Il y a une qui est partie très tôt parce que lui manquait maman, à mon avis. Les 8 sont restées. Elles ont fait de compresseurs, mais pas possible. 23 victoires, un match nul. Un goal average de 100, plus 138. Elles montent tout de suite en D2. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas parce que je vais m'amuser de remplir l'équipe avec les Américains. Aujourd'hui, il y en a 0. Mais pour créer l'engouement, pour provoquer les familles ici, les familles havraises, de pousser leurs filles de faire la même chose qui poussait les garçons, faut gagner. Et c'est pour ça, j'ai insisté de jouer dans le stade. J'avais beaucoup de résistance de certains, même au sein du club, même au sein de l'association. Pas Jean-Michel, il était toujours 100% aligné avec moi, qui disait, non mais, tu vas faire jouer les filles, la section féminine, dans le stade Océan. Je dis, bah oui, c'est l'équipe première, tu veux que je fasse quoi? Et puis, même la Ligue m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, c'est peut-être mieux un stade un peu plus petit, plus chaleureux. Je dis, non, vous avez pas compris. Vous les recrutez, vous payez, on paye les salaires de Ligue de D1. On était en D3. On paye 2 allers-retours les billets. On paye les leçons de français et on cherchait pour chaque joueuse américaine un job de mi-temps, même pas, dans leur spécialité. Et puis, on appelait les copains. Bon, il y avait des infirmières, il y a des filles qui sont déjà 22, 23 ans, qui sont matures. Et puis, on a créé toutes les circonstances pour réussir et pour recruter. Et donc, je disais toujours, je me rappelle comme si c'était hier. Je disais, parce que j'invitais les joueuses, leur coach et leurs parents à cette fameuse réunion en avril. Je dis, voilà ce qu'on va faire. Bah, ils voient une photo du stade Océane, ils voient les images de Paul Pogba, Christophe Revault, etc. J'étais avec, à l'époque, avec Arnaud Tanguy, qui était le directeur général. Et puis, je crois qu'on avait amené Thierry Huvener avec nous aussi. Je ne suis pas sûr si Thierry est venu dans la visite. Et puis, je dis, vous inquiétez pas, on n'envoie pas vos filles en Chine. C'est le Havre. Vous prenez l'avion de New York, 6 heures et demie plus tard, vous êtes à Paris, 2 heures plus tard, vous êtes au Havre. Et écoutez bien l'accent. Autant que ça choque ici, ça n'a pas du tout choqué là-bas. Et puis, je dis, je vais prendre soin de vos filles comme si c'était... Comme, nous allons prendre avec Christine comme si c'était les nôtres. Les filles viennent, et bien le résultat, il est là. Et puis, maintenant, on attaque la 5e année en D1 sur les dernières 6 années. Comme disait Cilia, elle avait raison, on est descendu. Après l'année Covid, on n'avait pas le temps de vraiment recruter. On a fait des erreurs, on est redescendu et on est remonté aussitôt. Donc, bravo. Et il y a une personne qui vraiment mérite la reconnaissance devant tous, de toutes, c'est Laure Lepailleur.
Cette fille, manager de club, section
féminine, ancienne joueuse, 38 fois sélectionnée par l'équipe de France. Quelqu'un de sérieux, d'une ténacité hors norme. Elle vient, je crois qu'elle vient d'Evreux aussi. Je sais pas, oui. Il y a quelque chose dans l'eau. Après, elle est bonne mère, mais c'est vraiment...
Le football, effectivement, il y a beaucoup de bons joueurs à Evreux.
On lui doit un dette énorme à l'heure. Et puis, elle trouve encore les moyens qui ne sont pas extraordinaires. Elle trouve toujours de créer l'équipe. Il faut aussi féliciter Thierry Huvener. On ne savait pas comment faire. Mais je dis à Jean-Michel Cosy, Thierry, why not? Pourquoi pas? Je l'appelle, il vient au bureau, je dis, Thierry, on va lancer une section féminine, est-ce que tu es prêt de piloter comme coach? Il dit oui. Il n'a pas demandé le salaire, les conditions de travail, il dit oui, tout de suite. Et lui, il a mis son intensité, il a fait un bien fou pour le club. Thierry, on lui doit beaucoup. Mais Laure, elle est toujours là. Elle est tenace, elle est intelligente, elle est digne, elle a que des qualités. C'est une fille spectaculaire, on a une chance énorme de l'avoir.
Et du coup, vous disiez, Laure est toujours là. Vous êtes toujours là aussi, du coup. comme vous dites, c'est vous qui assumez financièrement la partie féminine. On est sur un budget de 2 millions, 2 millions et demi, quelque chose comme ça.
Oui, tout confondu, hors de avec... les petites subventions et les choses qui en touchent.
Avec le centre de formation aussi féminin, du coup. Oui. Voilà. On avait entendu qu'il y avait peut-être un entrepreneur havrais, Pierre Lassara, qui pouvait être intéressé. On a l'impression que, pour le moment, au moment où on se parle, ce projet n'a pas abouti, du coup.
Oui, pas pour l'instant. Oui, c'est clair que ça n'a pas abouti, parce que moi, je suis toujours là. Mais toutes les portes sont toujours ouvertes. On cherche le bon repreneur, le bon projet et le financement suffisant pour pouvoir s'exprimer et rester en D1.
Il n'y a pas de date limite, entre guillemets. Ça peut prendre une semaine, comme peut-être un an, comme peut-être plus.
Enfin, voilà.
Oui,
voilà.
C'est ça votre état
d'esprit. Ça prendra le temps qui s'apprendra.
D'accord.
Et d'ici là, vous serez là.
J'abandonne pas.
C'est aussi rassurant, je pense, pour les féminines qui, quand même, voient ce qui se passe du côté chez les garçons, même si dans les faits, j'ai l'impression que ça change pas leur quotidien fondamental. Mais vous et votre épouse, qui avez quand même porté cette section féminine et soutenu, que vous soyez toujours là, le temps de trouver effectivement ce repreneur. J'imagine que ça rassure. Vous parliez du recrutement que vous aviez raté un joueur à l'époque de Paul Le Guen suite à un article qui annonçait une chose fausse. Mais là aussi, j'imagine, on est aussi en pleine période de recrutement pour la construction de l'effectif de la saison prochaine. Les filles ont repris l'entraînement depuis quelques jours. C'est aussi rassurant quand même que vous soyez toujours là avec votre épouse pour ces féminines.
Oui, et puis, abandonner ce qu'on a bâti serait criminel. Et puis, c'est vrai que ça perd beaucoup d'argent. Et puis, c'est vrai qu'il faut qu'on change la trajectoire de cette section niveau commercial. Et je ne suis pas la personne de le faire.
Ouais, il faut créer des recettes, c'est ça que vous...
Pour créer des recettes, plus de sponsoring, etc. Mais je suis sûr qu'avec une personne, un groupe adéquat qui connaissent le métier, qu'on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Parce que les gens de base, ils sont pour, et les sociétés, ils sont pour l'idée de soutenir le sport féminin.
Le sport féminin, bien sûr, oui.
Et donc, quelqu'un, pas moi, va pouvoir faire mieux que moi, c'est sûr.
Est-ce que vous avez vu déjà évoluer ces dernières années le regard sur à la fois le hack féminin, mais aussi le foot féminin en général? Quand on voit en prime time l'Euro qui vient de s'achever il y a quelques jours, j'imagine que c'est encourageant.
Mondialement, c'est encourageant. Niveau de Havre, moi je dirais, venez au stade, hein, ça coûte 2 fois rien, il nous faut plus d'adhérents au match. Parce que ça crée une ambiance super. Et puis, on est un peu bloqué dans les chiffres où nous étions depuis plusieurs années. Donc, il faut vraiment qu'on casse ça et puis on crée un autre événement. Mais honnêtement, le niveau de jeu, il est très bon. il est sympa de regarder les matchs. Surtout les filles, ils roulent pas 10 fois parce qu'ils ont, un petit bobo, quoi. C'est pas toute cette simulation qui renvoie chez les garçons, qui fait partie de stratégie de match, d'ailleurs. Et donc, on voit pas ça avec les filles. Vraiment, c'est le football peut-être plus pur dans ce sens-là qu'avec les garçons. Et donc, oui, faut changer les trajectoires. Il faut chercher plus de recettes. Il faut chercher l'équilibre. Mais dans le monde, on voit maintenant, les Américains et les Anglais, ils commencent à payer les transferts.
Les premiers, oui.
Quand je commence à regarder le chiffre, je regarde le fait qu'on peut avoir 4 Américaines ou 4 non-Européennes dans le club.
Dans l'effectif.
Je crois qu'il faut faire. Parce que si on recrute un Américain qui ira peut-être hors de vision parce qu'il y a trop de bonnes joueuses aux États-Unis, ben, on le recrute, on le valorise, elle joue, elle aide l'équipe ici. Et une année ou deux plus tard, elle est retransférée chez elle.
Et elle fait de la pub, en plus.
Elle fait de la pub. Déjà, il y a au moins 2 équipes aux États-Unis professionnelles qui connaissent le hack. Parce qu'il y a des joueuses qui sont venues, qui étaient là, qui jouent là-bas. Donc, ça va venir. Il faut être patient, mais pas trop. Il faut pousser, parce que ça coûte cher, mais on va arriver.
Un dernier mot, peut-être. Vous vouliez, remercier un certain nombre de personnes, c'est ça?
Ah oui, mais non, mais ça...
C'est peut-être trop long. Hein.
Il est
vous
long,
mais... une longue liste sur la table du studio.
J'irai vite, parce que... Mais il ne faut pas oublier ces personnes-là. Et honnêtement, je préfère faire ça maintenant, parce que moi, j'ai fait partie du passé, pas l'avenir. Et donc, là, votre attention, si je peux me permettre, vous devrez vous concentrer sur le nouvel propriétaire, la direction de club, l'avenir, le recrutement, etc. Bon, mais je commence avec Christine, c'est clair.
Que c'était votre épouse.
Le soutien, ça fait 31 ans qu'elle est mariée. Et puis, depuis 10 ans, on est avec le club et on est toujours mariés. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle.
Et elle est normande.
Elle est normande, elle était née à Dieppe, mais vraiment a passé toute son enfance ici dans la région Havraise. Donc, elle est Havraise. Jean-Michel Kosiewski, qui j'ai parlé, je parle de Nicole Fassi, qui est notre contrôleur, qui a repris 3 fois après sa retraite. Donc, je peux pas faire la liste sans elle. Alain Belsoeur, qui m'a aidé tout au départ, avec Dominique Montalène, Jean-Pierre Bourgier, et puis les administrateurs dès le départ, Pascal Lardy, Jesus Pacheco, et puis Yankees Van Galen, qui ont vraiment m'aidé, parce que je connaissais absolument rien. Et puis, ils m'ont beaucoup aidé. Je peux pas faire la liste sans parler d'un ami de très longue date, Pierre Brocolecki. Ben, c'est lui qui m'a plus ou moins forcé de regarder le club. Son papa, il jouait dans les années 50 avec l'équipe première, il était pro. Et puis, c'est grâce à Pierre qu'on est là, en fait. Bon, Philippe Diefenthaler, qui c'était mon contrôleur de ma société, qui a passé beaucoup de temps. Je remarquerai aussi que le DNCG a été dur à m'étendre avec moi à la fois. Il y avait des années qui me disaient, bon, mais j'avais toujours un coup de fil de Jean-Marc Micheler ou de Cécile Huet en disant, Vincent, attention, faut faire ça, ça et ça, mais on va pas te harceler pour le reste parce qu'on sait que tu es là. Et l'avantage, c'est que j'étais le créditeur et le débiteur à la fois. C'était moi le banque et moi celui qui utilisait les fonds. Donc, ils étaient un peu plus sympas avec moi parce que si j'ai déposé le bilan, c'est moi qui allais souffrir. Mais ils étaient vraiment remarquables avec moi dès le départ. Ils m'ont même donné un peu de temps supplémentaire il y a 10 ans pour acheter le club parce que c'était déjà en juillet, comme cette année un peu.
C'était il y a 10 ans quasiment.
Oui, presque jour au jour. Bon, après, il y a les Staline, la famille Staline qui ont créé le SPG, le restaurant. Laure, j'ai déjà parlé, Thierry Oswald Tanchot, c'est un nom qu'on oublie, mais c'est un mec très digne, c'est un bon coach. Et puis... depuis qu'il est parti, j'ai que de respect pour lui, on reste en contact. Bon, il y a plusieurs, Mika Albunel, qui a assumé la section féminine, parce que Thierry, il est parti, Mika, il dit, Mike, tu n'as jamais géré une équipe féminine, tu dis, bon, mais je suis partant. Bah, les gens comme ça, on ne les trouve pas comme ça. Ces garçons sont exceptionnels. Après, il y a quelques jours qui m'ont marqué, celui qui j'appelle mon fils, c'est Joseph Mendez, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui.
Bien sûr.
Il était là en 2015. Et puis, c'est un garçon très digne, intelligent, il a beaucoup de qualités, il vient juste d'arrêter le football, et puis, je suis très fier de qu'est-ce qu'il fait maintenant, il investit dans l'immobilier, c'est un garçon super. Lys Mousset, bon, tu peux pas aimer Lys avec sa personnalité, il a quand même fait vibrer l'équipe, ma première saison, donc il m'a marqué beaucoup. Notre fils de club, Victor Lécal, bien sûr. Il y a deux recrutements qui je me rappelle très bien parce que c'était les garçons très 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 bien, très respectueux et ils trichaient pas. C'est Cédric Cambon et Thomas Ayas. Après les co-actionnaires, bon, on a parlé de eux. Il faut qu'ils comprennent un petit peu la situation. Je crois qu'on a clarifié. Et puis le groupe aujourd'hui, je viens de citer les fameuses quatre. Je vais pas reparler de eux. J'ai juste un petit mot sur Mathieu quand même. Ben vous allez dire qu'on est des meilleurs copains. Je ne fréquente pas du tout Mathieu, mais une chose que je me rappellerai toujours, on était dans le dur. On s'est posé les questions, est-ce qu'on va rester en Ligue 1? Et qu'est-ce qu'il fait? Il prolonge pour 2 années. Il prolonge comme ça d'office. Ce mec, il c'est l'intégrité qu'il a. Il n'y a pas plus. Tu ne peux pas que de respecter ça.
Non, mais c'est vrai que cette prolongation, et je vous laisse terminer après, c'était la saison dernière quand c'était encore Lucas Hesner le coach.
Oui.
L'équipe était vraiment sportivement un peu dans le trou. Et on en avait déjà discuté, je sais, et je pense, en tout cas personnellement, que ça a beaucoup joué dans le maintien du HAC cette saison-là, que Mathieu Bonnemer, qui est le garant de la politique sportive du club, montre qu'il était là, présent, quoi qu'il arrive. Et je pense que ça a envoyé un message à l'ensemble.
C'était essentiel pour l'équipe, et pour moi, il a monté l'échelle immédiatement. J'ai eu un respect pour lui, je ne connaissais pas avant. Je dis, waouh, vraiment, c'est un vrai. C'est un vrai. Après, il y a le contrôleur qui est là, Clément, Amandine, Aminata, la liste est longue, Didier, Hélène, Cyril, il y a deux Quentin, bon, ben, tout ça. Il y a Alan Calderala qui était là au départ. Il a beaucoup donné au club. Je me rappelle toujours de lui parce que c'était quelqu'un, c'était celui qui faisait le plus. On lui demandait un truc, 3 secondes plus tard, il dit « Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» Je lui dis « T'as déjà fait ça ?» Oui, c'est l'homme d'action. Après, il y a une chose qu'il faut citer parce que on a quand même une image de football français qui est pas toujours excellente. Mais là-dedans, il y a des vrais hommes et des vraies femmes. Alors, il y a 4 qui viennent, que j'ai absolument besoin de citer. C'est Pascal Robert de Brest, Marc Keller de Strasbourg, Michel Mallet de QRM et Joseph Ugorlian. J'ai toujours un problème avec son nom de famille de Lens. Ces mecs-là, ils représentent tout ce qui est bon, tout ce qu'on devrait afficher au public. Intelligence, fidélité à leur couleur, ténacité, dignité et honnêteté. C'est sûr qu'ils ont des défaits, mais je ne les vois pas. Et vraiment, ces mecs-là, si j'allais revenir un jour, qui n'est absolument pas le cas, j'aimerais bien être comme eux.
D'accord.
Et ils sont vraiment super. Et puis, juste un dernier mot, parce que, bon, il y a Jean-Pierre Roux, qui nous a quitté, Christophe Revault. 2 images complètement différentes, mais très, très importantes pour la ville.
Ancien président, ancien gardien.
Oui. À leur façon, ils ont fait un marque, et surtout Christophe avec sa humilité. C'est un jour par excellence. Et puis Jean-Pierre, il a fait un bilan énorme. 12 ans sur 20 en Ligue 1. Pas de dette, 4e ou 5e club formateur de la France. En plus, il était responsable de l'équipe de 98, de Coupe du Monde. Donc, il avait un bilan extraordinaire. Et puis, dernier mot, que je ne suis pas du tout dans la politique. Je ne vote même pas ici. Je ne suis pas français, vous avez certainement remarqué. Une histoire que personne n'a entendue. Donc, je vais profiter aujourd'hui, comme c'est peut-être la dernière fois que je parle à la presse, si tout va bien. C'est Edouard Philippe. Alors, il y a 10 ans, c'est Pierre, mon pote, qui me pousse de regarder. J'embauche Ernst & Young. Il faut que j'embauche des experts et je ne voulais pas dévoiler mon identité. Et je reconnais que ce n'était pas simple pour Jean-Pierre Louvel et les autres parce qu'ils ne savaient pas qui était en face. Mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir mon nom dans la presse. Il y avait cette histoire de Christophe Mayol, etc. Donc, je ne voulais pas faire partie de ça. Donc, ils ont fait toute la recherche et j'avais décidé, j'allais prendre le club sous une seule condition, parce que la dette était, il y avait 9 millions de dettes nettes à l'époque, c'est d'être exonéré de la saison antérieure où on n'avait pas payé le loyer et les 2 années d'après. Donc, j'appelle Edouard Philippe, que je connaissais déjà. Parce qu'à l'époque, il était maire du Havre, et puis le dresseur était bien installé ici, donc, et j'avais passé 5 ans dans l'usine du Havre. Donc, je dis, voilà, je vous contacte pour vous expliquer que je suis en train de regarder si je prends le club ou pas. Et cet appel, c'est mon dernier appel avant de décider. Si vous m'exonérez de ces 3 saisons, antérieures et les 2 qui suivent, je prends. Si vous ne faites pas, je ne prends pas. Et je ne dirai à personne. Mais c'est aussi simple que ça, parce que le dette était dure. On a envie d'investir, mais c'est pas que de pour payer de dette. Et donc, il dit, bon, mais laissez-moi réfléchir. Et puis, je dis, pas de négociation. Bah, c'est comme si j'ai parlé à un mur, parce qu'il est revenu. Il a dit, OK, on accepte. C'était un jeudi, je l'appelle, il me rappelle lundi. Il n'a pas chômé. Pourquoi je raconte l'histoire? Parce que, ben, il a dit, OK, on prend. On prend, mais en contrepartie, on veut prolonger cette bail qui est déjà il est extrêmement cher. Le stade, il coûte trop, trop cher. OK? Mais c'est comme ça. C'est un autre sujet pour un autre jour. Il dit, on prolonge 8 années, 8 ans de plus. Et si vous, quand vous montez en Ligue 1, on va hausser encore par rapport à ce qui était écrit dans le truc. Donc, on a fait un avenant de contrat. J'ai accepté. Ensuite, je dis, en fait, pourquoi vous prenez cette décision? Parce que le plus facile pour un élu, c'est de rien faire. Les élus, parfois, ils réalisent pas qu'ils travaillent pour nous. On imagine qu'on travaille pour eux. C'était pas du tout le cas. Et il a dit simplement, je vais pas dire mot à mot, il a dit, si je prends, je vais prendre plein sur la figure, disons. Si je prends pas, je ne rends pas service à la ville, on va finir avec un stade vide, ça sera plutôt un musée qu'un stade de foot. Donc, je prends. Il a eu le courage, qu'on voit rarement dans les officiers, les élus, de prendre une décision vraiment pas populaire avec les gens qui disaient « Non, il faut payer, il est américain, il peut payer. Moi, je n'allais pas prendre le club. » Donc, moi, je raconte l'histoire parce que personne ne saura. Ce n'est pas un mec qui va dire quoi que ce soit. Je ne suis pas politique, je ne vote pas. Et même si je votais, je ne suis pas sûr que je voterais pour lui. Mais il faut reconnaître quand même qu'il a cette qualité. Et à quelque part, il a sauvé la ville. Il a peut-être sauvé la club. Je dis peut-être. On ne sait jamais si je n'aurais pas pris le club. Ils auraient peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Le club aurait été peut-être sauvé. Mais le club, c'était dans une position très précaire financièrement. Donc voilà, tout le monde a fait le job, même le maire. On est... au troisième année de Ligue 1.
Et ça fait un chapitre de 10 ans, du coup.
Et 10 ans passés comme ça. La seule chose que je disais à Christine, c'est on va partir en vacances la semaine prochaine. Et pour une fois en 10 ans, on va pas se poser les questions. On achète qui, on vend qui, on équilibre les budgets comment. Bon, voilà, il y aura moins de stress.
Ce sera de vraies vacances.
Il y aura moins de stress sur le mercato, vacances. Du coup.
Ben voilà.
Merci beaucoup.
Juste un dernier mot, je promets. J'ai presque oublié, le plus important, c'est les supporters. Je ne parle pas de ceux qui viennent le dimanche après-midi quand il y a PSG au stade. Je parle de ceux qui étaient là en 16, 17, 18, sous la pluie, lundi soir, contre New York, à 3000 dans le stade, ils étaient 2005. Eux, ils ont fait le job. Et eux, ils méritent une reconnaissance spéciale. Même si je n'étais pas très content avec le comportement de tout le monde cette année, par rapport à la façon qu'ils ont réagi avec Didier, mais lui était hyper digne, donc ça s'est passé. Mais ils sont là tout le temps. Ils vivent pour le club, ils sont très investis, et puis à leur façon, ils animent le stade. Et puis, chapeau, vraiment chapeau à eux. Et ils méritent toujours d'être traités avec un peu de préférence au niveau de billetterie et des abonnements et tout ça. Je crois que chose qu'il en a fait, je crois que ça va continuer. Mais merci beaucoup à vous 2500. Celui qui vient dimanche, on est content que vous soyez. Et ne m'entendez mal. Mais ceux qui étaient là, toujours, qui seront toujours parmi nous, peu importe où on travaille, où on joue, et puis dans quelle ligue on est, ils seront là, présents. Bravo.
Et peu importe la météo. Merci beaucoup Vincent Volpe d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette deuxième saison du débrief 100% hack avant la reprise du championnat. Ce sera samedi 16 août à 19h face à Monaco au stade Louis II et sans Paul Pogba a priori, mais on le verra peut-être au stade Océane pour le match retour. Et puis le premier match à domicile, on l'a dit tout à l'heure, ce sera face à Nantes. Et il y aura même Lens, pardon, j'ai marqué Lens sur ma feuille, mais parfois le cerveau il fait des choses bizarres, il a confondu Lens et Nice, puisqu'il y aura double dose au stade Océane pour ce
le 24 pour et le 31 août, ouais, tout à fait. Deux matchs à la suite.
Et puis chez les dames, reprise de la compétition le 6 septembre, ça sera face à Strasbourg, premier match à domicile pour les joueuses de Maxime Di Liberto. Fin de partie donc pour ce débrief que vous retrouvez sur notre plateforme podcast by Tendance Ouest et chez nos partenaires le courrier cauchois.fr et footnormand.fr. Merci beaucoup Mathieu Billot d'avoir été avec moi face à Vincent Volpe. On va prendre un petit peu de repos, puis on se retrouvera au mois de septembre pour faire le point sur le début de saison et puis surtout sur le mercato.